Vengeance mauresque par Blasco Ibanez. Presque tous les voyageurs de ce wagon de troisième classe connaissaient Marietta, une belle fille vêtue de deuil, qui, un nourrisson dans les bras, était assise près d'une fenêtre et fuyait les regards et la conversation de ses voisines. Les vieilles paysannes la contemplaient, les unes avec curiosité, les autres avec haine, à travers l'aisance de leurs paniers énormes et des ballots posés sur leurs genoux où étaient entassées toutes les emplettes faites à balance. Les hommes, tout en mâchant de mauvais cigares, lui lançaient des regards chargés d'ardents désirs. D'un bout à l'autre du wagon, on parlait d'elle et l'on racontait son histoire. C'était la première fois que Marietta osait sortir de chez elle depuis son veuvage. 3 mois s'étaient écoulés. Elle devait avoir peur de Tully, le frère cadet de son mari, un garçon qui, à 25 ans, était la terreur du district, cerveau brûlé, n'aimant qu'à faire le coup de feu et étaler son courage, à tel point que, riche de naissance, il avait quitté cette terre pour vivre en aventurier, tantôt dans les villages, grâce à la tolérance des alcades, tantôt dans la montagne, quand ceux qui lui en voulaient osaient porter une accusation contre lui. Marietta semblait satisfaite et tranquille. L'hypocrite. Quand on pensait qu'avec une âme si noire, elle avait un si joli visage, un port si majestueux, on eût dit une reine. Ceux qui ne l'avaient jamais vue s'extasiaient sur sa beauté. Elle ressemblait aux vierges, patronnes des villages. Sa peau pâle et transparente comme de la cire s'éclairait par moments d'une teinte rosée. Ses yeux noirs, bien fendus, étaient ombrés de longs cils. Son cou superbe était coupé par 2 plis horizontaux qui faisaient ressortir l'éclat de sa blanche carnation. Elle était grande, et les courbes fermes de ses seins et de ses hanches se dessinaient au moindre mouvement sous ses vêtements noirs. Vraiment, elle était très belle, et l'on comprenait en la voyant la folie de son pauvre mari. C'était en vain que la famille de Pepette s'était opposée au mariage. Épouser une jeune fille pauvre, lui, un homme riche, était déjà une absurdité. Mais choisir par-dessus le marché la fille d'une sorcière, experte par atavisme en toutes ses mauvaises pratiques, cela passait la mesure. Malgré tout, il avait tenu bon. Sa mère en était morte de chagrin. À en croire les voisines, elle avait mieux aimé quitter ce bas monde que de voir chez elle la fille de la sorcière. Et Tully, bien qu'il fût un vaurien qui ne respectait guère l'honneur de la maison, s'était presque brouillé avec son frère. Il ne pouvait se résigner à voir comme belle-sœur une jolie fille qui, à ce qu'affirmait au cabaret des témoins oculaires, et il ne se réunissait là que des gens des plus respectables, préparait des breuvages malfaisants et aidait sa mère à extraire la graisse du corps des petits vagabonds pour faire de mystérieux onguents avec lesquels elle la frottait tous les samedis à minuit avant de s'envoler par la cheminée. Pepette, qui se moquait de tous, avait fini par épouser Marietta. Et c'était ainsi que ses vignes, ses caroubiers, sa grande maison de la Calle-Mayor et les 11 d'or que sa mère gardait dans les coffres de sa chambre étaient devenus la propriété de la fille de la sorcière. La sorcière ridée, aux petits yeux méchants, qui ne pouvait traverser la place du village sans être poursuivie à coups de pierre par les gamins, était restée seule dans sa cabane des environs, devant laquelle personne ne passait la nuit sans faire le signe de la croix. Pepette avait tiré Marietta de cet antre, heureux d'être le seigneur et maître de la plus jolie femme du district. Quelle façon de vivre! Les bonnes femmes le rappelaient d'un air scandalisé. On voyait bien qu'un pareil ménage était l'œuvre du diable. C'était à peine si Pepette sortait de chez lui. Il oubliait ses champs. Il laissait libre ses ouvriers pour ne pas quitter une minute sa femme. Les gens qui passaient surprenaient les étreintes des 2 époux par la porte entrebâillée ou par les fenêtres toujours ouvertes. On les voyait se poursuivre, entremêlant les éclats de rire et les caresses, ivres de bonheur, narguant tout le monde à la satisfaction de leurs désirs assouvis. Ce n'était point là une existence digne de chrétien. Le médecin du village, le seul qui se moquait des sorcières, des breuvages magiques et de la crédulité du peuple, avait parlé de les séparer. Il n'y avait point d'autre remède, mais ils avaient continué à vivre ensemble. Lui, de plus en plus exténué et misérable, tandis qu'elle grossissait, pimpante, fière, défiant la médisance avec son air de souveraine. Ils avaient eu un fils, et 2 mois après, Pepette était mort lentement, comme une lumière qui s'éteint, appelant sa femme jusqu'au dernier moment, les mains tendues vers elle dans un élan passionné. quel commentaire dans le village. C'était là l'effet des philtres maudits. La vieille s'enferma dans sa cabane, craignant qu'on ne lui fît un mauvais parti. Quant à la fille, elle ne sortit pas pendant plusieurs semaines, et les voisins entendaient ses lamentations. Enfin, défiant les regards hostiles, elle alla plusieurs fois l'après-midi au cimetière avec son bébé. Au début, elle avait une certaine peur de Teulaï, son terrible beau-frère, pour qui tuer était la seule préoccupation digne d'un homme, et qui, indigné par la mort de son frère, parlait au cabaret de tordre le cou à sa veuve ou à sa sorcière de belle-mère. Mais il y avait un mois qu'il avait disparu. Il devait être avec des bandits dans la montagne, où ses affaires l'avaient peut-être entraîné à l'autre extrémité de la province. Aussi Marietta avait-elle enfin osé sortir du village et aller faire des achats à Valence. Ah, la belle dame! Quelle importance elle s'est donnée avec l'argent de son pauvre mari! Peut-être espérait-elle qu'elle aguicherait les beaux messieurs lorsque ceux-ci la verraient si appétissante. Et dans tout le wagon bourdonnait le chuchotement hostile. Les regards convergeaient vers elle, mais Marietta ouvrait ses grands yeux impérieux, respirait fortement avec une moue de dédain, et se remettait à contempler les plantations de caroubiers, les oliviers gris de poussière, les maisons blanches qui fuyaient des deux côtés du train en marche, tandis que l'horizon s'incendiait, éclairé par les rayons du soleil couchant qui s'enfonçaient dans d'épaisses toisons d'or. Le train s'arrêta dans une petite gare, et les femmes qui avaient le plus jasé sur Marietta s'empressèrent de descendre en jetant devant elles leurs paniers et leurs cabas. Quelques-unes d'entre elles restaient dans le village et prenaient congé des autres, les voisines de Marietta qui avaient encore à marcher pendant une heure pour arriver chez elles. La belle veuve, son bébé dans les bras, son panier plein de ses achats appuyé sur sa forte hanche, sortit de la gare à pas lents. Elle voulait que ses commères hostiles prissent les devants, afin de marcher seule, sans entendre les cancans qui la faisaient en souffrir. Les rues du village, étroites, tortueuses, avec leurs larges auvents, étaient quelque peu obscures. Les dernières maisons s'alignaient des deux côtés de la route. Au-delà, les champs bleuissaient à l'approche du crépuscule. Marietta, qui pourtant ne manquait pas de courage, éprouva soudain une certaine inquiétude en se voyant seule sur le chemin. La course était très longue, et la nuit serait tombée avant qu'elle arrivât chez elle. Sur une porte se balançait la branche d'olivier poudreuse et desséchée, en signe d'un cabaret. Au-dessous, tournant le dos au village, était un petit homme appuyé aux jambages, les mains enfoncées dans sa ceinture. Mariette le remarqua. Si elle allait reconnaître en lui, quand il tournerait la tête, son beau-frère, mon Dieu, quelle peur elle aurait! Mais certaine qu'il était bien loin, elle continua sa route en savourant la cruelle idée d'une pareille rencontre, parce qu'elle la croyait impossible. Mais elle tremblait, en pensant qu'après tout c'était peut-être Teulaï qui se trouvait devant l'auberge. Elle passa près de l'homme sans lever les yeux. « Bonsoir, Marietta. » C'était lui. Et la veuve, mise en face de la réalité, n'éprouva pas l'émotion qu'elle avait ressentie quelques instants avant. Elle ne pouvait en douter. C'était Teulaï, le bandit au sourire perfide, qui la regardait avec ses yeux plus désagréables et plus cruels que ses paroles. Elle répondit « Hola !» d'une voix défaillante, et elle, si grande, si forte, elle sentit soudain ses jambes pliées sous elle, et elle dut même faire un effort pour ne pas laisser tomber son enfant. Teulaï souriait sournoisement. Il n'y avait pas de quoi s'effrayer. N'était-il pas parent ? Il se réjouissait de la rencontre. Il l'accompagnerait jusqu'au village, et chemin faisant, il parlerait de différentes affaires. « Avance, avance !» disait le petit homme, et la gaillarde le suivit, docile comme une brebis. C'était un contraste bizarre que celui de cette femme grande, robuste, fortement musclée, qui semblait traînée par Teulaï, ce garçon maladif, pitoyable et méchant, dont seuls les regards acérés, aux lueurs étranges, révélaient le caractère. Marietta savait de quoi il était capable. Les hommes vigoureux et vaillants étaient tombés, terrassés par cette bête malfaisante. À la dernière maison du village, une vieille balayait le vestibule en chantonnant. « Bonne dame, bonne dame !» cria Teulaï. La brave femme accourut en jetant son balai. Le beau-frère de Marietta était trop connu à plusieurs lieues à la ronde pour ne pas être obéi immédiatement. il prit l'enfant des bras de sa belle-sœur, et sans le regarder comme pour éviter un attendrissement indigne de lui, il le remit à la vieille en la chargeant d'en prendre soin. C'était l'affaire d'une demi-heure. Ils reviendraient bientôt le chercher, dès qu'ils auraient terminé une commission qu'ils avaient à faire ensemble. Marietta éclata en sanglots et se pencha sur le bébé pour l'embrasser. Mais son beau-frère la tira par le bras. « Marche, marche !» Le soir tombait. Subjugué par la terreur qu'inspirait ce petit homme venimeux à tous ceux qui l'entouraient, elle continua à avancer, sans son enfant et sans son panier, tandis que la vieille, en se signant, se hâtait de rentrer chez elle. À peine distinguait-on, comme des points indécis sur la route blanche, les femmes qui allaient au village. Les vapeurs grises de la nuit tombante s'étendaient sur les champs, les arbres prenaient des tons d'azur sombre, et en haut, dans le ciel couleur de violette, palpitaient les premières étoiles. Ils continuèrent à marcher en silence pendant quelques minutes, puis Marietta s'arrêta d'un air décidé, qui cachait mal la peur qu'elle ressentait. Ce qu'il avait à lui dire, il pouvait le lui communiquer, là, aussi bien qu'ailleurs. Ses jambes tremblaient, elle balbutiait, et n'osait pas lever les yeux par crainte de rencontrer ceux de son beau-frère. Au loin résonnait le grincement des chars à roues pleines. Des voix que l'écho prolongeait s'appelaient à travers les champs, déchirant le silence du crépuscule. La jeune femme regardait avec angoisse la route. Personne. Elle était seule, avec son beau-frère. Celui-ci, sans se départir de son sourire infernal, parlait lentement. Ce qu'il avait à lui dire, c'était de faire sa prière, et si elle avait peur, de se couvrir le visage avec son tablier. On ne tuait pas impunément le frère d'un homme comme lui. Marietta fit un pas en arrière avec l'expression épouvantée d'un être qui s'éveille au milieu du pire danger. Son esprit, troublé par la peur, avait imaginé avant d'arriver là les plus grandes brutalités, d'horribles coups de bâton, son cœur meurtri, ses cheveux arrachés. Mais prier et se cacher le visage, mourir, et une pareille énormité dite aussi froidement. Tremblante et suppliante, elle essaya d'attendrir Telaï par un flot de paroles. Tout cela n'était que mensonge et cancan. Elle l'avait aimé de toute son âme, son pauvre frère. Elle l'aimait encore. Et s'il était mort, c'était parce qu'il n'avait pas voulu la croire, et qu'elle n'avait pas le courage d'être sauvage et froide avec un homme si épris d'elle. Mais le bravache l'écoutait, accentuant de plus en plus son sourire féroce qui devenait une grimace. « Tais-toi, fille de sorcière !» C'était elle et sa mère qui avaient tué le pauvre Pépette. Tout le monde le savait. Elle l'avait fait mourir d'une consomption en lui administrant des breuvages malfaisants. Et s'il l'écoutait maintenant, elle serait capable de l'ensorceler lui aussi. Mais non, il n'y avait pas de danger. Il ne tomberait pas dans ses filets comme son imbécile de frère. Et pour lui prouver son énergie de bête féroce, il saisit entre ses mains osseuses le visage de Marietta, le souleva pour le voir de plus près, contemplant sans émotion les joues pâles de la jeune femme, ses yeux noirs et ardents qui brillaient à travers les larmes. « Sorcière, empoisonneuse !» Petit et chétif en apparence, il abattit d'une violente poussée cette forte fille aux chairs superbes dans leur fermeté et, reculant, chercha quelque chose dans sa ceinture. Maria était anéantie. Personne sur la route. Au loin, les mêmes cris, le même grincement des roues. Les grenouilles coassaient dans une mare voisine, les grillons s'ébattaient avec vacarme sur les rives, et un chien poussait des hurlements lugubres là-bas, dans les dernières maisons du village. Les champs se perdaient dans les vapeurs nocturnes. En se voyant seule, vouée à une mort certaine, elle perdit soudain son arrogance de belle-fille. Elle se sentit brusquement toute faible, comme au temps où elle n'était qu'une gamine, et où sa mère la battait. Elle se mit à sangloter. « Tue-moi ! Tue-moi ! » gémit-elle en se couvrant le visage de son tablier noir qu'elle enroula autour de sa tête. Telaï s'approcha d'elle, impassible, un pistolet à la main. Il entendit encore la voix de sa belle-sœur qui gémissait à travers l'étoffe noire avec des lamentations de petite fille, qui lui demandait d'en finir vite, de ne pas la faire souffrir, mêlant à ses supplications des fragments de prières qu'elle récitait précipitamment. Mais pour toute réponse, un homme expérimenté, il chercha avec le canon du pistolet dans cette enveloppe noire et tira deux fois coup sur coup. Dans la fumée, les éclairs de la poudre, il vit Marietta se redresser comme mue par un ressort, purent tomber avec un trépignement convulsif d'agonie qui mit en désordre ses vêtements. Parmi la masse noire et inerte, on n'aperçut plus que les bas blancs modelant les courbes séductrices de ses jambes, secouées par un ultime frémissement. Tolei, calme comme un homme qui ne craint personne, et compte, au pis-aller, trouver un refuge dans la montagne, revint au village voisin pour y chercher son neveu, content de son exploit. En prenant le bébé des mains de la vieille femme épouvantée, il pleura presque. « Pauvre petit, mon pauvre petit, » dit-il en le couvrant de baisers. Sa conscience donc le débordait de joie, car il était certain d'avoir fait pour l'enfant une grande chose. Ainsi s'achève Vengeance mauresque par Blasco Ibanez.